Alors, on arrive à la dernière partie de la journée.
L'idée, on a demandé à Françoise de Blomac, donc, qui dirige SIG La Lettre, d'essayer de nous faire, non pas un compte-rendu, mais on va dire un peu un inventaire à la Prévert de ce qu'elle a pu observer, de ce qu'il a interrogé, de ce qu'il a confirmé ou infirmé des choses qu'elle pensait sur l'intégration des SIG, de la géomatique à l'école. Donc voilà, on va la laisser parler. On prendra un tout petit temps de questions, mais très rapide. Voilà, donc tu as la parole.
Ben, merci beaucoup. Je vais commencer par une question. Combien dans la salle sont professeurs d'histoire géo? Parmi ceux-là, combien sont géographes? Alors, combien sont professeurs de SVT? Et parmi ceux-là, combien sont géologues? Ah, ben c'est quand même mieux. Parce que vraiment, enfin, moi, ma première conclusion à la suite de cette journée, vous êtes une bande de tarés. Vous avez vu le temps que vous y passez? Que vous y avez passé depuis 20 ans, depuis 10 ans, enfin, je veux dire, vous avez créé des logiciels à partir de rien, des plateformes, des séquences pédagogiques, des données retournées, fouillées à droite à gauche. Alors, enfin, j'aimerais que tous les gens qui pensent que les profs ne foutent rien soient là aujourd'hui parce que je pense qu'ils seraient rassurés en tout cas. Mais je veux dire que, quelque part, ce constat-là, entre guillemets, m'alarme un peu. C'est-à-dire que c'est le constat que je faisais il y a 10 ans. C'est-à-dire que la diffusion de l'information géographique dans l'enseignement secondaire dépendait d'un petit groupe de gens, alors je vais dire tout simplement passionnés. Mais la passion relève de plein de dimensions. Et je constate qu'aujourd'hui, c'est encore ce même groupe qui est là. Les têtes ont un peu changé, quoi qu'il y en a qui sont toujours là. Ça conserve la géomatique. Il y en a des plus jeunes. Mais là, je trouve qu'il y a quelque part, pour moi, quelque chose qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire, je me dis... On est toujours en train de se poser la même question, c'est comment on va faire pour sortir de ce cercle-là et faire en sorte que l'information géographique soit vraiment diffusée de façon plus large dans l'enseignement. Alors, certes, il y a eu votre étude qui dit des choses un peu différentes. Le travail de Caroline sur le repérage d'un certain nombre de séquences pédagogiques montre qu'il y a du matériau à disposition, je ne sais pas si c'est un combat, mais le combat il n'est pas gagné encore. Enfin, moi c'est la première conclusion, si vous voulez, que j'ai envie de faire à la suite de cette journée passionnante au demeurant. Je veux dire, vous avez monté des séquences qui sont très très intéressantes et là n'est pas la question. La question elle est vraiment dans comment on passe à une autre dimension, comment on industrialise ça. Et malheureusement, je pense que ce qui s'est dit ce matin, les réactions qu'il y a eu à EduGéo montrent que vous n'êtes pas persuadé, et j'avoue que moi non plus, que EduGéo soit la réponse à tout, pour un certain nombre de limitations qui ne sont pas forcément des limitations techniques. Alors bon, il y en a quand même une grosse, c'est que EduGéo, ça s'appuie sur le géoportail. Le géoportail, c'est la France. Et heureusement, vous n'apprenez pas que la France aux élèves et que vous leur apprenez plein d'autres choses qui se passent dans le monde. Bon, alors voilà, ça c'était ce que j'avais d'à peu près structuré à vous dire. Pour le reste, ça part dans tous les sens. Moi, ce qui me frappe... c'est que vous êtes dans un exercice qui est vachement contraint. c'est pas facile de faire de l'information géographique. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez fait plein de choses, mais il y a plein de contraintes complexes qui sont peut-être encore plus complexes pour vous qu'elles le sont pour ce qu'on pourrait appeler les utilisateurs entre guillemets professionnels. Alors, on a toujours, quand on présente le marché de l'information géographique, l'utilisation de l'information géographique, on a cette espèce d'image de la pyramide où en haut, il y a le producteur, donc le petit groupe de producteurs experts. Ensuite, il y a les utilisateurs experts qui vont utiliser ce que les autres produisent. Puis ensuite, il y a les utilisateurs finaux. Puis on a rajouté une quatrième couche en forme de corolle qui est le grand public maintenant. Et ce modèle pyramidal, finalement, il ne fonctionne pas vraiment pour vous. Je ne sais plus qui l'a montré en disant qu'il était à la fois le juge, le guide, etc. En fait, vous devez tout faire. Vous êtes tout pour arriver jusqu'à cette rencontre avec votre grand public à vous, que sont les élèves. Et donc, il faut peut-être arriver à... Peut-être que l'idée de retrouver ce modèle pyramidal pourrait vous aider à mieux fonctionner, c'est-à-dire d'avoir... Alors, est-ce que c'est au sein de votre ministère? C'est un ministère complexe. Moi, j'ai toujours pas tout compris hein, entre les statuts des uns et des autres. Mais essayer de trouver un moyen pour qu'il y ait des relais qui se fassent entre ceux qui produisent de l'information, ceux qui produisent de la séquence, ceux qui vont pouvoir la réutiliser. On sent que ce modèle-là est encore en train de se chercher. Alors il y a des initiatives hein, qui sont nombreuses, mais on sent que c'est quand même aussi en train de se chercher. Alors on a beaucoup parlé des globes virtuels aussi. Alors moi ce que j'ai envie de dire, c'est une réflexion qui est sans doute un peu générale sur Google Earth et les portails géographiques, les globes virtuels dans leur ensemble. On est dans le niveau 1 du langage géographique. C'est bien parce que maintenant ce niveau 1, il est diffusé. Je trouve que ça a changé beaucoup de choses. Je ne sais plus qui l'a dit, mais moi, ça y est, ma mère a enfin compris ce que je faisais. Ça fait 20 ans que j'essaie de lui expliquer, donc c'est très bien. Mais c'est aussi une certaine vision de la géographie. Et j'imagine qu'on doit avoir un peu les mêmes questions dans le domaine des sciences de la vie et de la Terre. Et moi, j'ai été frappée, alors c'est facile de le dire parce qu'il n'est plus là, j'ai été frappée par la petite démonstration que nous a fait le monsieur de l'IGN à propos du géoportail en nous montrant l'évolution du territoire sur Charles de Gaulle et comment c'était absolument merveilleux de pouvoir voir qu'avant il n'y avait rien et puis qu'ensuite il y avait un aéroport. Oui, et alors? Je veux dire... En termes de raisonnement géographique, sur l'échelle, sur c'est là le problème. On n'a pas posé le problème. On l'a peut-être montré qu'avant il n'y avait pas d'aéroport et puis qu'ensuite il y en avait un. Mais voilà, votre boulot il commence après, j'ai envie de dire, dans ce raisonnement-là. Alors. J'avais envie aussi de vous comparer à ces utilisateurs professionnels. Bah finalement, sur plein de choses, vous avez les mêmes problèmes qu'eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de trouver que les données sont trop chères, sont trop complexes à trouver, qu'il faut les retravailler, etc. Et puis qu'il faut des outils qui soient vraiment adaptés. C'est-à-dire que la boîte à outils SIG n'est pas suffisante et donc il faut arriver à trouver quelque chose qui soit vraiment au service, pour vous, qui soit au service de l'enseignement. Des contraintes complexes, donc ce que je disais, l'exercice est très contraint. En plus, vous avez des utilisateurs, au moins quand on travaille dans une collectivité. Quand on balance une application aux techniciens des espaces verts, et je me tourne vers Sylvie, bon, a priori, il ne sait pas comment ça marche, il va écouter ce que vous lui dites quand vous lui expliquez comment ça va marcher. Là, vous êtes avec des élèves qui ont de toute façon une longueur d'avance sur vous, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, je crois qu'on l'a tous compris. Donc ça remet en question plein de choses. C'est même plus vrai aux espaces verts. On n'est même plus tranquille dans les collectivités. Donc, donc, il y a une myriade d'outils, une myriade de pratiques au milieu desquelles il va falloir que vous naviguiez. Alors, moi, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, bah voilà, c'est ne pas oublier que c'est bien la géographie ou les SVT que vous enseignez, pas la géomatique. Ça se fait dans d'autres contextes et que la géomatique, ça doit être une aide à cet enseignement. Alors, Bon, je ne vais pas repartir sur tous les avantages, replacer l'expérimentation. Enfin, bon, on a vu qu'il y a quand même. Enfin, moi, je reste persuadée que c'est un très bon outil, mais il faut que ça reste une aide à un enseignement d'un certain nombre de matières, et éviter que les disciplines gardent leur aspect ringard. Comme l'ont fait remarquer un certain nombre d'élèves, vous nous l'avez bien dit, hein, ça change de ce qu'ils ont l'habitude de faire, on s'est moins embêté que d'habitude, enfin bon, donc ça marche. Alors, vous avez un peu les mêmes problèmes que des utilisateurs professionnels, et visiblement vous êtes en train de rechercher les mêmes solutions, c'est-à-dire la mutualisation, la coopération, le fait de capitaliser sur le savoir acquis par les autres. Alors moi j'ai peut-être envie de vous dire en conclusion, peut-être que vous devriez vous rapprocher des utilisateurs professionnels. Je sais que ça n'est pas politiquement correct vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale, mais ça fait une petite vingtaine d'années que je pense qu'il y a là quelque chose à creuser. D'abord, effectivement, c'est l'accès à des politiques de mutualisation, donc d'acquisition, de possibilité de récupérer de la donnée. Ils ont donc de la donnée, ils ont de l'expérience et ils ont des enfants. Donc je pense que il y a certainement. Moi, je regrette qu'il n'y ait qu'une collectivité qui soit là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a plein de choses à apprendre les uns des autres, et je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Ça m'embête de voir des gens bosser sur les mêmes sujets, sur les mêmes problématiques, aussi éloignés les uns que les autres. Problématique du port 2000 du Havre, il y a un super SIG au port du Havre où il y a des tas d'informations qui sont dedans et certainement avec des gens qui pourraient. Alors il ne s'agit pas de transformer, de mettre des ArcGIS ou des StarAPIC dans les lycées, mais il y a sûrement. Enfin, moi je pense qu'il y a des choses à faire, et c'est aussi là que le ministère, devrait peut-être vous aider. Voilà les quelques réflexions éparses que je peux vous faire.
Sur ta dernière remarque, avant de passer la parole à la salle, j'ai vu la publication au BO donc des postes d'inspecteurs généraux, et parmi les compétences attendues, il y a la capacité de développer des relations entre l'éducation, les collectivités locales et les entreprises. Donc tu vois qu'il y a des choses
qui avancent. C'est bien.
Voilà, donc dans la salle. Donc,
bien.
Alors, première question. Je voulais rebondir sur les collectivités et les instituts officiels. On parlait de port 2000 pour le Havre. Moi, je suis dans un estuaire où il y a un port autonome de Nantes-Saint-Nazaire qui nous interdit absolument de les approcher.
C'est
qui
le port
interdit, qui a interdit à un type qui devait tourner sur le site du port Lavigne avec moi, sur le terrain, qui a interdit à ce type de faire le film parce qu'il avait une partie du financement de l'émission de télé locale.
Oui.
Et que le sujet était tabou.
Mais
pour le rapprochement.
Non, mais moi je vous parle des techniciens.
Ah, mais les techniciens, ils sont sous contrat. Et
moi, je vous parle des techniciens. Et si j'ai... Ouais, mais je sais pas, alors c'est possible, hein, j'ai pas. Mais à la ville de Saint-Nazaire, ils ont aussi de l'info.
Ah oui, non, mais avec le Sige-Loire, on va sans doute nous avoir un pied de
voilà, mais, voilà. Ouais, non, mais je vous crois complètement, mais je suis sûre qu'il y a, je suis sûre qu'il y a des choses qui peuvent se faire.
Pour info, le Grand Lyon a sa propre couverture aérienne, 16 cm de résolution. Quand on va les voir, donc ils nous en donnent chaque année 50 km², n'empêche que c'est une bien meilleure résolution que ce que fait l'IGN. Donc il y a des services cartographiques
de plus en plus de
des collectivités territoriales,
des villes. Voilà.
N'hésitez pas quand même à les voir. Parce que
les villes, de plus en plus. On est en train de passer à une nouvelle génération de systèmes d'information géographique. D'abord, qui sont très web. Donc petit à petit, vous allez avoir accès même directement par des services interopérables à des couches de données. Et c'est vrai que beaucoup de villes se font faire en ce moment, ou se sont fait faire dans les dernières années, des couvertures orthophotographiques à haute résolution. Pas par l'IGN pour en avoir la pleine propriété. Donc la pleine propriété, ça veut dire la pleine capacité à la filer, à qui ils ont envie de la filer.
Vous avez évoqué le service SIG du Havre, le SIGU, c'est fantastique, sauf que quand vous leur écrivez sous le couvert de professeur d'histoire-géographie au collège machin, ils vous répondent jamais quoi. Alors si vous avez des contacts, moi je veux bien.
Ouais, mais je pense que je vais vendre mon carnet d'adresses.
Mais ce rapprochement-là, il est dans la tête aussi des profs, mais a priori, là, dans ce cas-là, il n'est pas dans la leur, quoi. Donc, moi, je veux bien faire des rapprochements, mais quand vous écrivez au directeur de ce service-là, il ne répond jamais, quoi.
Mmh. Oui, mais je pense qu'effectivement, on aura plus de problèmes avec les directeurs de service qu'avec les gens qui ont les mains dans le cambouis. Oui. Ouais, moi je vois pas comment les élus peuvent pas être sensibles à ça, quoi.
Et alors les élus sont sensibles à ça, si je peux me permettre. Nous, dans l'académie de Lille, on a été contactés cette année par la préfecture, le conseil général, pour travailler sur les usages pédagogiques d'un truc qui existe déjà, qui s'appelle le Pépige. Et puis par le conseil général, alors là c'est incroyable, ils consultaient, il y a un groupe de travail de profs de SVT, de physique et d'histoire géo pour travailler sur la conception d'un SIG en ligne, un vrai SIG, et ils nous demandent qu'est-ce que vous voulez comme fonctionnalité, mais pas de problème.
Donc, on fait le tour des régions, donc on a Pays de la Loire, où ça bouge, on a donc Nord-Pas-de-Calais, on a l'Alsace, qui a le partenariat SIGAL, on a PACA, l'Auvergne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Rhône-Alpes, c'est compliqué parce que c'est plutôt service de l'État, mais bon, ministère, vous êtes service de l'État, donc a priori, ça devrait pouvoir se faire. L'Aquitaine est en train de bouger. Picardie? Bah alors, Haute-Normandie. Basse-Normandie, pardon.
Leur intérêt, il est là aussi parce que, en tout cas, les deux, hein, PPG et Conseil Général, ils disent, nous, on paye la donnée, on paye la construction du SIG autant que ça serve à tout le monde. Et donc, c'est l'argumentaire qui est tenu.
Oui, c'est tout à fait, tout à fait.
C'est en train de bouger. Les parcs naturels, les parcs régionaux également divulguent maintenant leurs données et ont leur propre système de données qu'ils mettent en ligne. Ils ont leur propre SIG en ligne.
Oui, moi je voulais juste poser une question complémentaire à la salle, rejoindre notre ami québécois. J'ai l'impression aujourd'hui, bien que ce ne soit pas votre rôle de former de futurs utilisateurs ou des gens à des métiers, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'utiliser ces outils-là dans vos classes vont faire de futurs géomaticiens ?
Réponse de la salle.
Réponse positive pour un atelier de pratique que j'avais développé où 5 terminales se sont inscrits. L'un des 5 fait géographie et SIG maintenant. Donc à 20%, c'est pas mal quand même.
Tu as tes statistiques.
Statistiques.
Alors qui dit mieux au niveau pourcentage?
Mais moi, je ne suis pas optimiste parce que j'ai entendu dire que nos élèves réussissent moins bien alors qu'on a beaucoup de moyens. Donc j'ai entendu dire plusieurs fois. Et je suis donc même très pessimiste. Est-ce que je dois continuer à travailler et à m'investir énormément compte tenu de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'on a dans l'éducation beaucoup de moyens et que nos élèves réussissent moins bien que les autres?
Je voudrais parler du rapprochement entre enseignants et entreprises.
Entreprises.
Oui. Les entreprises ont beaucoup de données aussi. Et
À quelles entreprises
Je pense des grands
gestionnaires de réseau.
Comment? Non, des entreprises qui sont des multinationales ou qui ont de nombreux sites de production, etc.
Google, Microsoft.
Non, je parle de sociétés françaises comme Total ou autres. Voilà.
Ouais,
ou Arkema, pour parler de sociétés lyonnaises comme Arkema, etc. Bon. Ils sont déjà ouverts, en partie ouverts, en particulier pour la région Rhône-Alpes. Ils ont une structure du MEDEF. Alors tout de suite, dès qu'on parle MEDEF, évidemment, les gens, il y a beaucoup d'enseignants réagissent de façon électrique et qui proposent la mise à disposition des informations, de données, l'ouverture des lieux de production, etc., aux enseignants. Mais ce qu'il faut vaincre, c'est une double réticence. La réticence des enseignants par rapport aux entreprises, C'est le capitalisme, c'est ceci. Enfin, je schématise. Et les entreprises, eux aussi, ils ont une réticence par rapport aux enseignants. C'est contre gauchiste, enfin, pour faire très court, etc. Et de fait, même s'ils sont de bonne volonté, il faut parfois beaucoup de temps. Et moi, il m'a fallu pour Arkema un an de négociation pour pouvoir se faire ouvrir les données et de faire rentrer, de pouvoir faire une formation sur un seul site qui est celui de Saint-Auban.
Oui, alors, à nouveau, là, Cyril.
À former des futurs professionnels. Moi, j'avoue que quand je fais mon truc là sur Port 2000, j'essaie de former plutôt un citoyen qu'un futur géomaticien.
Oui, non, mais est-ce que ça peut même permettre de faire émerger des vocations?
Je pense que la question elle est plus là.
Juste une petite remarque par rapport au thème que tu as développé. Il y a 5 ou 10 ans, on disait la géomatique bloque à l'école à cause de l'accès aux données et de l'accès aux logiciels. Aujourd'hui, on est en train, en partie, de lever, on va dire, soit par des partenariats des collectivités, soit par des initiatives qui viennent de Google Earth, de Geoporta, etc., par des SIG qui deviennent libres. Donc, on commence à lever ces obstacles techniques. J'ai l'impression que, quand même, il y a quand même quelque chose qui a été abordé à plusieurs moments dans la journée, mais qui n'est pas vraiment quelque chose qui est clairement dit, explicite. C'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un problème de constitution de jeux de données pédagogiques, c'est-à-dire de rendre didactique ça, de l'intégrer au programme, de l'intégrer aux objectifs, de l'intégrer, de mettre ça en musique, et que ça soit au profit d'un raisonnement géographique ou d'un raisonnement géologique, d'une sortie de terrain, etc. Et ça, ce travail de conception de jeux de données pédagogiques, c'est-à-dire pas seulement récupérer la donnée, récupérer des logiciels, mais mettre ça en œuvre dans un cadre pédagogique pour des objectifs d'apprentissage, en classe, avec des élèves ou en dehors de la classe, mais à visée pédagogique, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a un gros travail, et vous l'avez fait souvent dans de simplification de données, de choix, de poser des problématiques qui sont en adéquation avec les thèmes, et puis garder une certaine scientificité, un certain recul critique par rapport à l'information, parce que finalement, ce qui n'a pas beaucoup progressé, c'est l'intégration des TIC à l'école. Et aujourd'hui, on ne fait pas de géomatique, de même qu'on ne fait pas tellement de recherches sur Internet. Les élèves sont livrés un peu à eux-mêmes, font de la recherche Internet, beaucoup chez eux, etc. Donc, je veux dire, c'est aussi le frein de l'intégration des TIC qui fait que la géomatique n'arrive pas plus vite à l'école. Alors, c'est peut-être une banalité, mais il ne faut quand même pas oublier ça.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Sylvain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous ne devriez plus qu'avoir ce problème-là, qui est la constitution de véritables séquences pédagogiques. Alors, peut-être avec des formules peut-être un peu plus collaboratives qui vous permettront de répartir les efforts, peut-être en vous appuyant sur des cellules techniques de simplification de données, de recherche, etc. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous ne devriez plus avoir que ça comme problème.
Normalement. Mais en fait, non.
J'ai l'impression qu'on en est encore un petit peu loin. Mais il y en a qui y arrivent, hein, mais bon.
Ma question porte ma réflexion porte sur le rapprochement entre professionnels et ce que nous sommes. Je ne sais pas si on est des pédagogues ou des techniciens. Bon. On n'est pas des professionnels. Moi, personnellement, je suis autodidacte en SIG. Hein, complètement. C'est-à-dire, j'ai pas eu une journée de formation sur SIG. Hein. La journée où j'ai été, finalement, c'est moi qui ai fait le formateur parce que j'avais plus d'avance que... Bon. Bref. Mais il faudrait, quelque part, que quelqu'un se soucie qu'on ne singe pas les gros logiciels professionnels, où il faut 4-5 clics pour arriver à ouvrir une couche, et encore, on n'est pas sûr qu'elle s'ouvre bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Là, je suis, par exemple, entre deux chaises, entre deux logiciels, qui n'attaquent pas des bases de données, mais qui attaquent des données. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les SIG qu'on utilise, ils soient aussi simples qu'un navigateur Internet. Hein ? C'est-à-dire qu'ils aient une approche intuitive. Hein, j'ai été obligé tout à l'heure avec les gens de l'atelier de dire, ah ben attendez, il faut déclarer le système de projection dans le logiciel pour que ça fonctionne bien. Ben, c'est dommage. Bon, je suis obligé de me plier, je ne suis pas le maître du logiciel, je suis obligé de me plier à cette nouvelle contrainte. Mais voilà, c'est quelque chose qui va faire obstacle pour la généralisation. Et donc, il faut que nous, on reste dans une...
Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'avec les différents projets, par exemple le mini-SIG autour des UGO, l'idée c'est aussi de proposer des choses qui sont un peu incrémentales, c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau, il y a un deuxième niveau, le truc qui fait tout intelligemment, sans vous poser aucune question et sans que vous vous ayez... Et en deux clics, il n'existe pas et il n'existera pas, et je pense qu'il n'est même pas souhaitable. Garder la conscience de ce que c'est qu'un système de projection. On n'est pas obligé d'avoir 2 heures de cours sur le datum, mais je pense qu'il y a quelque part, des notions de base de la géographie qu'il faut pas oublier. Alors peut-être que dans certains contextes, il faut avoir quelque chose où ça s'ouvre vite, où on clique, etc. Et puis dans d'autres, où on va pouvoir aller plus loin. Mais je pense qu'on peut pas. On peut pas tout réduire à trois clics et je joue.
C'est l'obstacle qu'on a, non pas vis-à-vis des élèves, mais vis-à-vis des collègues. C'est-à-dire quand on va montrer un logiciel, quand on dit attendez, avant d'afficher la première image, vous faire 3 clics, 4, 5 clics, pour que ça fonctionne correctement.
Oui, mais peut-être que ce qu'il faut, c'est qu'ils aient déjà tous utilisé Google Earth et du Géo ou ce qui est à leur disposition, qu'ils aient pris l'habitude de ça et qu'ils arrivent en disant je vais aller plus loin maintenant.
Oui, tu vois,
et à ce moment-là, ils seront peut-être capables d'investir
dans
un
la
peu
formation
plus.
En performance qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui est apparu très tôt. Quoi. Il fallait vraiment qu'il y ait des choses qui soient à différents niveaux parce qu'il y a des entrées différentes selon les enseignants. Et puis, il y a des enseignants qui ont centré leur activité sur d'autres choses que la géomatique et qui ont besoin de passer très, très peu de temps pour préparer leur cours en utilisant la géomatique, même s'ils ont envie de le faire. Je ne pense pas qu'ils puissent passer le temps que tu passes, toi, François, sur ces outils.
Justement, moi, c'est une grande interrogation pour moi d'arriver à motiver les collègues en tout cas leur réaction par rapport à ces outils. Quand on constate ou on observe quels sont les logiciels utilisés par des collègues qui étaient très réticents à toute utilisation informatique, hein, pour certains, ils ont acheté un ordinateur il y a 2 ans, hein, ou cette année, ou pas encore. Les logiciels qu'on voit, c'est Word. Les logiciels qu'on voit, c'est éventuellement Excel pour les graphiques. C'est maintenant Google Earth qui commence à être utilisé. Et c'est PowerPoint qui est utilisé. Je crois que la qualité, le 3 de ces logiciels, c'est la pérennité. C'est-à-dire que ces logiciels sont connus et ils ont établi, on va dire, un code d'utilisation, une méthodologie d'utilisation qui est devenue plus ou moins un standard. L'illustration, c'est le fait que quand on donne OpenOffice à un collègue parce qu'il a planté Office... Il sait l'utiliser. Quand on donne Firefox à un collègue qui utilisait Internet Explorer, il n'est pas particulièrement gêné. Et donc, il y a les collègues maîtrisent les codes d'utilisation de ce type de logiciel parce qu'ils savent ce que fait ce logiciel. Et cette étape-là, elle est en train d'être, à mon avis, de s'établir pour le SIG. Et elle n'est pas très compliquée. C'est vrai qu'on voit, quand on voit les différents SIG, on retrouve quasiment systématiquement les mêmes fonctions. C'est bien normal. Et pour l'instant, les collègues, pour eux, c'est quand même... tout compliqué. Voilà, ils ne repèrent pas encore la fonction gestion des couches, la fonction, toutes les fonctions classiques. Mais ça peut arriver assez rapidement à condition que, dans leur tête, ce logiciel, j'en ai déjà entendu parler. Effectivement, il est là depuis longtemps. Enfin, il y a une question de notoriété du logiciel qui rassure les collègues qui n'utilisent pas encore ces logiciels-là. Et voilà. Donc je ne sais pas si ça va s'établir. Je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'un logiciel fasse ce travail et s'impose comme l'a fait Word, par exemple. Mais...
Est-ce que c'est vraiment la notoriété qui a fait que les logiciels Microsoft sont utilisés par tout le monde, ou est-ce que c'est qu'il n'y avait apparemment pas d'alternative si on ne cherche pas ? C'est, je crois, plus à une pression commerciale qu'à réellement...
Oui, moi c'était pour réagir par rapport à l'outil transparent. Moi j'ai tendance à dire que l'outil peut pas être transparent, mais je pense qu'il doit pas. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont liés au traitement de l'information géographique, et ces concepts sont des concepts construits. Ils correspondent à une technique, à une culture géomatique. Alors cette culture, elle peut être plus ou moins simple, mais l'idée qu'on fera de la... vous l'avez, se repérer et regarder la surface de la Terre comme on fait dans Word, c'est Google Maps. Vous l'avez. Mais avec Google Maps, vous ne faites pas de la géomatique, c'est-à-dire vous ne faites pas du traitement de données, parce que vous ne séparez pas les fonctions et les données, vous n'avez pas de métadonnées associées, donc vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez faire confiance ou non, etc. Et je veux dire, je pense que l'outil ne doit pas être transparent. Mais la question n'est pas de former des géomaticiens, mais de former des citoyens qui ne sont pas des cliqueurs fous et des manipulateurs d'informations sans réfléchir, mais qui savent qu'il y a des structures de données associées. Et que, par exemple, une requête spatiale... On dit, la requête spatiale dans la base de données, elle est complexe. Mais c'est parce que le concept de... Alors, le concept de requête attributaire n'est pas simple. Le concept de requête spatiale n'est pas simple. La question de savoir, c'est est-ce qu'un citoyen doit savoir qu'il est en train de faire une requête sur une base de données ? Moi, j'ai tendance à répondre oui. Ça ne veut pas dire que vous le transformez en géomaticien, mais je veux dire, la notion de projection, il faut savoir qu'il y a des projections. Qu'on soit un spécialiste des datums est une autre question. Mais ne pas savoir qu'il y a, par exemple, qu'on est dans un type de projection dans Google Earth et que ça ne sera pas forcément le type de projection du SIG de la ville de Lyon, me semble important. Ça peut faire partie d'un cours de géographie.
Oui,
c'est ça que je veux dire. Mais il faut la transparence, ça serait que, on fait de la géographie comme on respire. Ça c'est mon premier point.
On fait de la géographie comme SimCity, c'est ça. Enfin, je veux dire, on va forcément aboutir à une vision très spécifique de ce que peut être la géographie et très réductrice à mon avis si l'outil devient transparent.
Oui,
Mais
l'outil n'est pas transparent parce que les concepts sont à apprendre. Alors une fois que ça sera, tout le monde aura acquis les concepts, bon peut-être que ça sera réglé, mais il va se passer un petit moment quoi. Mais la deuxième chose, c'est ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'à partir du moment où un certain nombre d'outils vont devenir, quand vous aurez Google Maps sur votre téléphone et que vous vous localiserez directement à partir de etc, vous avez cet outil va avoir un rapport particulier. Enfin, il y a un rapport entre l'espace que vous pratiquez et la manière dont vous le représentez, qui fait que vous aurez une autre manière pour les utilisateurs de se poser ces questions-là. Mais restera la question de qu'est-ce que j'interroge comme base de données, comment elle a été produite, ça restera. Simplement, les utilisateurs auront des manières beaucoup plus rapides d'aller vers des choses, parce que Google Maps, pour eux, ça sera comme Word, comme Firefox, etc. En revanche, on voit une chose, c'est que dès qu'il y a des nouvelles fonctions ajoutées dans Google Maps, par exemple, ça devient plus compliqué. Ou on change l'interface de Google Earth, on se dit, je savais faire les choses, il faut que je recommence mes didacticiels. Ce qui veut dire quand même que l'outil, il va passer un petit moment. Mais le fait qu'il soit transparent, à mon avis, c'est un fantasme qui est pas un bon.
Thierry, pour prolonger ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que du coup, avec ces nouveaux outils, il y a un renouveau quand même de l'information géographique, enfin du moins de son utilisation dans le grand public, et justement les élèves, il faudrait qu'on identifie pour eux quels sont les concepts clés géographiques pour le coup, qu'il faudrait qu'ils maîtrisent de manière à ce qu'ils utilisent de manière intelligente ces outils, il y a ça peut-être.
Oui,
aussi.
Oui, non, mais t'as raison. Enfin, moi, j'ai pas encore réfléchi à tout ça. Je pense que c'est collectivement qu'il faut réfléchir à ça. Mais imaginez, à l'heure actuelle, vous avez un service Orange sur votre téléphone qui vous permet de vous géolocaliser. Il ne coûte pas cher, ça ne coûte pas 30 euros par mois, ça fait partie de la connexion Internet. Vous l'utilisez, on vous dit chaque fois, ou définitivement, est-ce que vous voulez être localisé ? Oui. Et à ce moment-là, il vous dit, t'es là. Sur votre téléphone, ça s'affiche et on dit, t'es à cet endroit-là. Bon. Et puis avec la 3G, ça va être encore plus développé. Est-ce qu'il faudra peut-être apprendre aux élèves à gérer, est-ce que je dois dire tout le temps à Orange où je suis ?
Voilà, c'est oui, ça va poser d'autres questions.
Ça va poser d'autres questions, mais qui sont liées aux outils. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec des questions géographiques. C'est pas, je regarde sur Google Earth, c'est extraordinaire. Alors, ben oui, mais je sais déjà où je suis, mais comment je vais gérer ça ? Et ça, c'est des rapports à l'espace qui sont particuliers. Alors, je parle pour la géographie, pour les SVT, là, dans ce cas-là, ça se posera peut-être différemment. Mais il va y avoir, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen avec des systèmes de géolocalisation à peu près systématiques ? C'est pas la même chose que d'être citoyen alors qu'on apprend à utiliser un logiciel.
Et puis je pense qu'il y a quelque chose, on l'a pas dit vraiment, mais on sent bien que ces outils grand public sont en train de changer la donne, de déplacer des barrières entre professionnels, outils professionnels, outils grand public. Mais il y a quand même une chose. Alors vous dites vous n'êtes pas des professionnels. Si, vous êtes des professionnels. Vous êtes des professionnels de l'enseignement. Et les élèves, ça n'est pas le grand public. C'est-à-dire que même... nous sommes tous à la fois des professionnels dans notre métier, le grand public quand ça n'est plus de notre métier qu'il s'agit, mais quand un élève entre dans une classe, il est bien un élève et il n'est pas seulement l'utilisateur des produits grand public qui l'entourent au quotidien, même s'il y passe 10 heures par jour et qu'il les manipule plus que vous. Et je pense que voilà, il va falloir continuer à bosser. Il va falloir continuer à bosser sur cette différence-là. Mais la frontière va passer son temps à bouger. Donc c'est vrai que les séquences pédagogiques que vous avez faites, ben, va falloir les refaire. Il va falloir rechanger des choses. Et ça va être c'est un travail, à mon avis, permanent pour les prochaines années. Mais je pense que voilà, il faut pas confondre les élèves et le grand public. C'est pas la même chose.
C'était des mots conclusifs pour dire qu'il y a du boulot bien sur la planche pour la suite.
Ouais. Même si on n'a pas tout réglé.
D'accord.
Il est dégoûté, le pauvre monsieur. Il ne veut même plus la poser.
Non, voilà. C'était intéressant parce que...
Ça lui a coupé la chic.
On a une question de mathématicien.
Vous avez un air désespéré en rendant le micro. Alors
non, mais en fait, je voulais juste signaler ma surprise à ce que je viens d'entendre. Par exemple, si vous ouvrez une calculatrice, vous ne vous demandez pas comment elle fonctionne, mais pourtant, vous lui faites globalement confiance. La notion de requête attributaire à une base de données, ça ne me paraît pas un concept spécifiquement géographique. Et ça me paraît au contraire devoir passer sous le tapis, pour la plupart des utilisations du moins. Qu'on se pose à un moment la question de savoir comment fonctionne le système d'information géographique ou la calculatrice par analogie, ça peut être une question spécifique, mais ce n'est pas forcément le cœur de l'activité autour du SIG ou autour de la calculatrice.
Oui, mais quand même, ceux qui utilisent les calculettes, ils ont appris ce que c'était qu'une addition, une soustraction, une multiplication, une division, une racine carrée, une fonction.
Ils n'ont absolument aucune idée de savoir comment est-ce qu'une calculatrice fait ça.
Je suis d'accord, mais pour moi, on est dans le même parallèle.
Oui, mais le parallèle, il est que vous avez une idée de ce que c'est que les opérations, probablement un peu plus vague en ce qui concerne les logarithmes, les exponentielles, le cosinus et les choses un peu plus du même genre, et vous n'avez aucune idée, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais du tout, je n'ai aucune idée presque non plus, bien qu'un peu plus mathématicien que vous en principe, sur le fonctionnement de l'outil. Et une machine à calculer qui fonctionne en système polonais inverse comme les HP d'il y a assez quelques années, c'est quelque chose qui fait obstacle à l'utilisation de la HP. Voilà, quant à la question, la dernière chose qui a été évoquée, à savoir, je réponds sur mon téléphone, est-ce que je veux être géolocalisé ? Ça, c'est une espèce de, il me semble, d'hypocrisie de se dire qu'on ne l'est pas, dans la mesure où, pour que le réseau puisse communiquer quoi que ce soit, on est localisé. Simplement, ce n'est pas officiel, ou ce n'est pas explicite, ou ce n'est pas conscient, mais on l'est. Donc, de toute façon, la question, elle n'est pas liée à savoir quel est le système du datum ou ou la base de données qui est en jeu. Enfin, il me semble que c'est... Ce sont deux choses un petit peu séparées et qu'en tout cas, la transparence du système que l'on utilise est quelque chose de souhaitable et enfin, qui ne devrait pas s'ériger en obstacle, en tout cas. Bon, enfin, c'est une réflexion un petit peu rapide, réaction rapide, en tout cas.
Sur la requête attributaire, je ne disais pas qu'il faut absolument intégrer la requête attributaire. Ce que je disais, c'est que si la requête attributaire pose problème, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'elle est compliquée à écrire et que deux, elle demande une logique, par exemple, avec des « et » et des « ou » qui demandent un certain nombre d'explications et qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et quand le niveau de difficulté, c'est plus l'écriture même de la requête attributaire telle qu'elle existe dans les logiciels, mais la possibilité de faire une requête attributaire complexe combinant les « et » et les « ou », dans ce cas-là, en effet, ça deviendra transparent. Je ne dis pas que c'est ça simplement, pour l'instant, on en est dans le cas où on ne fait pas le lien entre les deux. On ne fait pas le lien entre le niveau conceptuel lié à combiner des « et » et des « ou » dans une requête attributaire, etc. Et puis que les requêtes spatiales, ça demande un problème un petit peu plus complexe, et qu'avant que ça soit transparent, ça va se passer du temps. Moi, je restais quand même sur l'idée que la calculatrice, c'est quelque chose qu'on utilise soi-même et sur lequel on travaille, tandis qu'avec les outils des bases de données géographiques, on se connecte à un certain nombre de bases de données fournies par l'intérieur, et que ramener l'interrogation d'un système d'information géographique à des calculs sur un système fermé, comme on pouvait le mettre sur le papier, ça me semble un petit peu discutable. On est dans une autre logique, plus collective. Et le fait que le système, que ça soit déjà localisé, c'est pas une question d'hypocrisie, c'est de faire comprendre aux gens ce qui était dit ce matin, c'est comment les données sont acquises, quelle est leur précision, qui les produit, derrière il y a une économie. C'est pas de la donnée qui vient comme un robinet qu'on ouvre. Et même derrière ça, je veux dire, je pense que du point de vue de la chimie, quand on ouvre un robinet, on dit voilà le système de production de l'eau. Ben, nous, quand on travaille de la donnée, il y a un système de production de données. Et ça, c'est pas transparent.
Bon, je pense que les discussions vont continuer dans les couloirs, mais il est tard, on a explosé déjà notre horaire. J'imagine que les personnes sont contraintes par les trains. Donc la première chose, c'est de remercier effectivement tous les intervenants qui sont venus à ces journées, puis également les simples auditeurs. Et en pensant que les simples auditeurs seront peut-être à même l'année prochaine de devenir intervenants en nous montrant un petit peu leur production. Je vous propose de vous inscrire, si ce n'est pas le cas, sur notre liste de diffusion et de contribuer sur cette liste de diffusion pour continuer à ces échanges et ne serait-ce qu'au niveau de l'information qui peut être diffusée. Et puis je vous souhaite donc un bon retour à tous et à toutes et à l'année prochaine pour une nouvelle édition. Merci.
Merci.